Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
J'essaie d'avancer et tout, et je regarde l'heure, et là je me suis dit, ok, tu vas jamais arriver à Valorcine dans les temps, et j'ai juste fait un calcul, j'arrivais pas très bien à réfléchir, mais je me suis dit, non, c'est juste pas possible, tu vas jamais y arriver. Je savais pas trop prendre des décisions, en fait, et à un moment je me suis dit, bon bah, de toute façon, l'ultra trail, c'est nul, la marche était trop haute, t'aurais jamais dû t'inscrire à ce truc, finalement, c'était trop de faire 100 km, j'étais pas assez bien préparée. Et puis, puis tant pis, je dois rien à personne. Enfin, j'ai fait le deuil de ma course, en fait, en quelques minutes.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode une coureuse amatrice, Géraldine Juge. Géraldine est une entrepreneuse suisse qui s'est progressivement prise de passion pour la course à pied et notamment le trail. Elle a savamment pris le temps d'allonger les distances jusqu'à se retrouver propulsée l'été dernier, presque par hasard, sur la ligne de départ de la CCC et de ses 100 km et plus de 6000 mètres de dénivelé positif. Une course qui marque pour elle un significatif pas en avant en termes d'engagement et qu'elle décide malgré tout d'aborder par le prisme du plaisir avant tout. Cette expérience va se révéler être pour Géraldine une lutte acharnée pour tenir dans les délais de 26h30 de barrière horaire qu'impose la course. Mais je ne vous en dis pas plus. Géraldine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Contre la Montre. Salut Géraldine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, comment ça va?
Ça va, merci, bonjour Guillaume.
On enregistre aujourd'hui cet épisode, Géraldine, le 21 février. Figure-toi qu'il y a 150 ans jour pour jour, le major Walter Winfield, que personne ne connaît, a inventé un jeu de plein air qui s'appelait à l'époque le lawn tennis, qui est devenu plus tard le tennis sur gazon. Et qui dit tennis sur gazon dit évidemment Wimbledon, le célèbre tournoi londonien réputé pour être le temple du tennis. Je ne sais pas si tu es adepte de tennis ou pas.
Archi fan.
Et ben, j'ai une question pour toi. Le match le plus long, tu dois savoir d'ailleurs, le match le plus long de l'histoire du tennis professionnel, c'est justement joué à Wimbledon en 2010. Il a opposé l'américain John Isner au français Nicolas Mahut. Est-ce que selon toi, ce match a duré plus ou moins longtemps que le temps qu'a passé John Albon sur les sentiers de la CCC qu'il a remporté en 2023?
Il a duré plus longtemps parce que c'était environ 11 heures que John, c'était, il me semble, un tout petit peu plus que 10 heures.
T'es forte, tu triches pas, t'es, tout ça c'est dans la tête, t'as pas Google sous les yeux.
Il y a très peu de choses que je sais dans ce genre, mais ça, honnêtement, c'était une question facile pour moi.
Ouais, 11h05, effectivement, le match s'est joué sur 3 jours, et donc, je sais pas si tu te rappelles, mais le score du 5e set, c'était 70 jeux à 68.
J'avais pas vu, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce...
Et John Albon, lui, il a mis 10h14 pour gagner la CCC, la dernière CCC en date. Voilà, ce match de tennis, il a donné lieu à plusieurs records, la plus longue durée de match, on en a parlé, le plus grand nombre de jeux dans un match, le plus grand nombre d'aces servis par les deux joueurs. Je crois que c'était à plus de 230 en cumulé là sur les deux joueurs. Et donc voilà, ils ont même mis une plaque commémorative, tu vois, près du court 18 de Wimbledon pour honorer ce match historique et puis les performances des deux athlètes. Et j'ai une petite raquette à te demander en guise d'ouverture de podcast. C'est une question classique, Géraldine. Il va falloir que tu te présentes sans me parler de sport. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à moi et à nos auditeurs sans parler de sport à ce stade?
Alors, je suis née à Genève, j'ai 36 ans, et je suis entrepreneur de pompes funèbres, donc j'ai mon entreprise. Et je suis justement passionnée de tennis et surtout de Federer.
Comme et d'en Suisse, évidemment. Suisse, ouais.
Enfin, même ceux qui ne sont pas Suisses sont fans de lui. Mais voilà, c'est, je dirais que c'est ce qui me passionne. J'adore cuisiner aussi. Mais c'est vrai que ouais, je suis passionnée de mon métier. Mais voilà, je dirais que globalement, dans ma vie, le sport fait vraiment partie de mes passions.
Est-ce qu'il a joué une place centrale dans ta vie dès ta jeunesse?
Alors oui, mais sous une autre forme. Je dirais que c'était plus un loisir à l'époque et c'était pas du tout dans la course à pied. J'ai fait beaucoup d'équitation aussi en compétition quand j'étais jeune. Je faisais aussi plutôt des trucs artistiques. Je faisais de la danse, aussi du théâtre. Et puis sinon, bah, pour revenir au sport aussi, du ski. Mais la course à pied est venue bien plus tard.
Toi, t'as grandi en Suisse, t'as passé toute ta vie à Genève?
Pas toute ma vie. J'ai vécu aux États-Unis aussi quand j'étais petite, pendant 2 ans. J'ai fait mes études à Lausanne, en Suisse, donc pas très loin de Genève. Et puis j'ai aussi fait pas mal d'années à l'étranger pour le travail après mes études.
Le sport, il a trouvé une autre place dans ta vie il y a à peu près une quinzaine d'années, vers 2008, c'est ça? Qu'est-ce que t'as commencé à pratiquer à ce moment-là?
Alors, en fait, j'ai commencé le sport, enfin, disons plutôt la course à pied de manière assez progressive. En fait, j'ai commencé à aller en salle de fitness. Il a fallu quand même un bon déclic pour y arriver. Souvent, le déclic, c'est vouloir être en forme, mais j'ai mis un moment à m'y mettre. Après, en fait, une saison à la montagne, je m'étais dit, j'ai envie de garder cette forme. Et j'avais payé pendant 2 ans avant une salle de fitness dans le vide. J'y allais vraiment jamais, mais... Après cette saison, je me suis dit, tiens, en fait, on va y aller régulièrement parce que j'avais envie de maintenir cette forme. Et ça a vraiment commencé en salle de fitness. Je faisais pas vraiment de la musculation, je faisais surtout du tapis en marchant rapidement avec un petit peu de dénivelé comme ça. Et puis, je courais un petit peu à la fin. Ça me permettait de donner un rythme parce que j'étais pas forcément capable de faire ça autrement. Et puis, petit à petit, mais vraiment, enfin, des années plus tard, je crois que c'était en 2014, la première fois, une amie m'a dit, bah, tiens, on va courir dehors. Arrête ta salle et tu me suis. Et là, je lui ai dit, OK, mais j'étais incapable d'aller sans elle. En fait, il fallait vraiment qu'elle m'accompagne. Et puis, on faisait 4, 5 kilomètres, pas plus. On allait vraiment à un petit rythme.
T'arrivais pas à trouver la motivation à être seule?
Non, oui, pas la discipline surtout. En fait, pour moi, le tapis me donnait le rythme et puis, ça me permettait vraiment, enfin, ça m'obligeait en fait à aller à une certaine vitesse. Mais par contre, dehors, il y avait forcément aucune obligation de continuer à courir. Je m'arrêtais en fait. Enfin, si j'y allais seule, c'était vraiment, je courais un kilomètre, après je marchais un autre kilomètre. J'avais vraiment pas plus de discipline que ça en fait. Donc, ça m'aidait vraiment d'être en salle.
Qu'est-ce qui t'a donné ensuite envie de poursuivre là après cette première expérience avec ton ami? Qu'est-ce qui a fait qu'au fil du tout, tu te l'as approprié?
Ben voilà, on y allait petit à petit. Et puis en fait, après, elle m'a obligée à m'inscrire à ma première course. C'était décembre 2015, une course à Genève très populaire où il y a 45 000 participants. Ça s'appelle la course d'escalade d'ailleurs. Je te conseille de venir la couvrir un jour.
Quand tu dis forcer, c'est que tu n'avais aucune envie d'aller mettre
ça? Si, non. En fait, elle m'a vraiment proposé de le faire et j'étais vraiment très... très motivée à la suivre, mais disons que l'élan venait d'elle. Ça serait jamais venu de ma part. C'est une course, tout le monde avait déjà participé un jour dans sa vie, à part moi, qui l'ai fait pour la première fois à 28 ans. Et c'est vrai que c'était un peu une course. Il fallait la faire un jour et grâce à elle, je l'ai faite. Mais c'était pas vraiment du forcing non plus. Et voilà.
Et avant cette course-là, est-ce que tu arrivais à trouver du plaisir quand même et une gratification à ta pratique de la course à pied ou ça restait quand même quelque chose d'un peu contre nature avant même d'essayer la compétition?
Bah, j'y voyais vraiment, en tout cas, ça me faisait énormément de bien au niveau... j'adore le goût de l'effort, en fait, et ça me faisait vraiment du bien au niveau cardio, ça me déconnectait. Donc non, je voyais beaucoup de plaisir, mais j'avais à ce moment-là encore vraiment besoin d'être accompagnée par cette amie Malika. C'était pour l'instant quelque chose que j'arrivais pas à faire seule. Voilà.
Et donc cette première course, quel souvenir t'en gardes à ces 5 kilomètres?
C'était incroyable. Alors déjà, c'est une course où il y a une ambiance de dingue, et j'étais, mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant? Avant, je comprenais même pas qu'on puisse courir, et puis j'étais aussi, j'étais un peu anti... course organisée, je me suis dit mais en fait on bloque une ville entière pour ça, ça sert à quoi? Et là je comprenais en fait enfin pourquoi les gens prenaient autant de plaisir à participer à une course, porter un dossard. Il y avait vraiment ce côté dépassement de soi, l'ambiance, ça m'a apporté vraiment de la joie et je me suis dit tiens, clairement c'est pas du tout la dernière que je vais faire. Et puis en fait quelques mois plus tard je me suis dit tiens, je vais participer à mon premier 10 km. Donc on faisait un peu les choses vraiment de manière graduelle.
C'est graduel, ouais.
Voilà. Et puis justement, cette amie devait faire ses 10 kills avec moi. Et puis, je sais pas, quelques jours avant, j'ai oublié, j'ai quelque chose ce week-end-là. Je me retrouve toute seule à faire mes 10 kills cette fois. Et là, pour moi, c'était impensable. C'était déjà impensable de courir 10 kilomètres. Je me suis dit, bah tiens, enfin, j'aime bien me donner des petits objectifs comme ça. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de le faire dans l'heure. Ça me paraissait impossible. Bon, j'ai finalement réussi à le faire en 53 minutes, mais bon, en premier, c'était pas mal.
Et tu avais un semblant de discipline quand même dans la prépa malgré tout. Là, on sent que tu avais plus ou moins envie de te lancer sur cette distance-là. Est-ce que tu étais quand même appliquée, assez studieuse dans ta préparation?
Honnêtement, je me souviens pas exactement, mais il me semble pas que à ce moment-là, je courais déjà toute seule. Je crois que j'étais toujours à courir un peu avec cette amie et j'avais besoin. Et je continuais à aller en salle. Hein, j'étais toujours inscrite en salle, donc pour moi, ça restait un bon entraînement. J'essayais de courir un petit peu plus sur le tapis que de marcher. Voilà, mais j'ai pas vraiment de souvenir d'être vraiment allée m'entraîner toute seule. Et pour moi, c'était une montagne en fait de faire ça. Et finalement, bah voilà, c'est un parcours un peu graduel où j'ai fait ce 10 kills et l'année d'après, c'était déjà le semi-marathon.
Et puis le marathon ensuite, encore un peu après.
Et le marathon ensuite. En fait, alors pour revenir au semi, à ce moment-là, je crois que c'était en 2017, mon premier semi-marathon à Genève aussi. Et là, j'ai commencé, en fait, je devais en fait renouveler mon abonnement de fitness et j'ai renoncé. Je me suis dit, en plus, j'avais déménagé. Enfin, c'était beaucoup moins pratique pour moi d'aller là-bas. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, en fait, on arrête d'aller en salle et on court tout le temps. Et là, justement, j'ai commencé en fait à réussir à courir toute seule. C'est vraiment, voilà, je faisais plusieurs kilomètres. Moi, j'arrivais de plus en plus à enchaîner, mais c'est devenu assez progressif, ça aussi. Et effectivement, après, il y a eu mon premier marathon en novembre 2019 à New York.
Quel souvenir t'en gardes? Tout le monde, enfin, ça évoque évidemment des choses très positives. Ça fait rêver quand même beaucoup de coureurs, ce marathon à New York. Est-ce que toi,
Oui.
c'était aussi un rêve absolu?
Alors oui, les grandes courses, autant toutes les autres petites courses jusqu'au semi-marathon, je me déplace pas forcément. Il y a vraiment plein de courses qui sont organisées à Genève très régulièrement, donc ça me suffit complètement. Mais après le marathon, j'avais un peu, pour moi, c'était un truc quitte à en faire un, quitte à aller se foutre en l'air. Il fallait que ce soit dans un endroit grandiose, il fallait que ce soit un truc prestigieux, un truc où il y a beaucoup d'ambiance, un truc de dingue. Et pour moi, c'était New York. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres de bien, mais il fallait que je commence par celui-là.
T'as le souvenir d'une course difficile?
Alors, New York, c'était, oui, à la fin, vraiment très difficile. Enfin, je m'étais vraiment très bien préparée. J'avais vraiment un objectif je voulais le faire en moins de 4 heures. C'était devenu une obsession, en fait, de toute cette préparation, cette réjouissance, d'aller sur place et tout. Et en fait, j'étais vraiment bien préparée, mais quand même, c'est pas une légende, hein, ces derniers kilomètres. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal, mais je me suis pas arrêtée et puis j'ai réussi à mon objectif.
En parallèle de ton avancée graduelle sur la route, tu as commencé aussi à tester le trail. C'était en 2016. Qu'est-ce qui t'a mené sur les sentiers?
Alors oui, ça a commencé à peu près en même temps que la course à pied finalement. C'était quelques mois après mon premier dossard. Et là, justement, je faisais partie d'un groupe de course. Enfin, je fais toujours partie d'un groupe de course avec un coach collectif et on s'entraîne tous ensemble. Et puis voilà, ils ont décidé de nous inscrire à un petit trail de 16 kilomètres en Valais. Et on s'est dit, bah tiens, allons-y. Et bah, ça me paraissait aussi insurmontable. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Et puis j'ai pris beaucoup de goût aussi à justement participer à un trail. Après bon, j'ai une approche hyper différente de la course sur route et de la course en trail. C'est que, enfin dans les deux cas, je dirais que le classement n'a aucune importance pour moi. Mais le trail, il y a plus une connexion avec la nature. C'est pas vraiment concret pour moi au niveau de l'allure qu'il faut tenir. Et vu que c'est de toute façon assez long, enfin on a rarement quelque chose en dessous de 15 kilomètres. Moi j'aime pas trop être dans le rouge. Et je suis plutôt un peu dernière, alors que la course sur route. J'aime bien être plus compétitive avec moi-même, pas avec les autres.
Mais tu te prends au jeu de l'allure, ouais, de tenir
Voilà,
l'allure.
exactement. Pour moi, c'est de la performance, c'est dans le concret, avec un pace à tenir, et puis c'est aussi de faire mieux d'une fois à l'autre. Mais j'aime bien ces deux approches et j'aime bien en fait faire les deux. Après, le trail, je le pratique beaucoup moins pour des raisons, je dirais, logistiques. Premièrement, simplement parce que voilà, quand on est à Genève, bon, il y a le Salève, une montagne qui est juste à côté, qui est très accessible et qui est assez chiante et très raide et répétitive et voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tous les week-ends. Mais sinon, évidemment, pour aller s'entraîner, il faut se déplacer un peu plus, alors que voilà, la course à pied est rien de plus facile. Donc je pratique un peu moins, j'ai moins d'expérience en trail et puis j'ai peu de technique, du coup je fais des petits pas, j'ai un peu le vertige aussi en descendant, donc voilà. Puis c'est pas les mêmes muscles, enfin voilà, disons que c'est quelque chose dans lequel je performe moins globalement, mais j'adore.
Sur les descentes, là, c'est très handicapant pour toi, là, cette gestion du vertige?
Oui, ça l'a été. En fait, à nouveau, j'aime pas me comparer aux autres, mais c'est quand même assez dingue de voir à quel point les gens me dépassent. Et je me dis, mais en fait, s'ils me dépassent pas trop le reste du temps, j'ai clairement un handicap. En fait, c'est-à-dire que c'est des gens, dans les trails, je les regarde, je les perds de vue en 2 temps 3 mouvements. Et je me dis, mais c'est pas possible de perdre autant de temps en descendant. Et en fait, c'est surtout au-delà du fait que je perds du temps, c'est il y a aussi un peu cet inconfort, en fait. Je me sens pas du tout à l'aise en descendant les sentiers. Du coup, j'ai aucun plaisir. J'ai vraiment du plaisir en montant, surtout en les parties roulantes, où c'est un peu du faux-plat, parce que, à nouveau, c'est plus ma force, mais enfin, pour moi, les descentes, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Et puis, c'était un truc, s'il y avait un truc à enlever un trail au trail, c'était clairement ça. Et il a fallu que je travaille, justement, là-dessus.
Donc, ça s'est réglé aujourd'hui, là?
Alors, oui, effectivement, justement, dans l'objectif de faire la CCC, je me suis dit, tiens, on va quand même, sachant que, voilà, il y a en tout cas, il y a environ 30% de descente, je me dis, si je dois me faire 30 kilos de descente, je vais pas avoir beaucoup de plaisir. Enfin, ça va être un peu long comme course. Donc là, je me suis dit, on va essayer d'enlever cette peur. Et puis, ça s'est bien réglé avec quelques séances de kinésiologie. Et je suis beaucoup plus à l'aise. Alors après, c'est pas parfait. Je pense que c'est aussi plutôt la technique, mais ça va beaucoup mieux et j'ai gagné du temps.
Moins d'appréhension, en tout cas.
Tout à fait.
Est-ce que ton cœur, il balance entre le trail et la route ou est-ce que tu as envie de pas choisir?
J'ai pas envie de choisir. J'aime les deux pour les raisons que j'ai expliquées. Je continuerai à faire les deux. Je pense que j'ai de plus en plus de plaisir à faire du trail. Avant, j'avais vraiment le cœur qui balançait plus pour la route, mais je pense que, j'aime me dire que je peux pratiquer ces deux sports qui ont des points communs, mais qui sont aussi très, très différents. Et c'est pour ça que je préfère dire même les deux sports.
Tu nous l'as dit tout à l'heure, là, tu es entrepreneuse aujourd'hui. Enfin, ça fait un certain nombre d'années. Comment est-ce que ça peut coexister avec ta pratique de la course à pied? Quelle place t'arrives à accorder à ta pratique?
Mais ça m'apporte beaucoup dans ma vie d'entrepreneur parce que voilà, dans les deux cas, c'est des épreuves d'endurance à part entière. Il faut savoir tenir sur la durée. Et voilà, dans ma vie d'entrepreneur, en fait, on n'a pas de cadre, on n'a personne pour nous booster. Et il faut trouver la force pour aller jusqu'au bout des choses. Et c'est une force que j'arrive à trouver, je pense, grâce à la course à pied. Ça m'a vraiment aidé à forger mon mental et à me discipliner, justement.
Est-ce que l'inverse est vrai aussi? Est-ce que ton activité d'entrepreneur t'aide?
Exactement. Oui, c'est vice-versa. Et je pense que ça m'a vraiment forgé dans ma vie d'entrepreneur, mais dans ma vie de coureuse à pied aussi. Et puis, je dois dire aussi que la course à pied m'aide aussi dans mon métier pas que d'entrepreneur, mais le métier de pompunabre en soi. Parce que c'est vrai que je vois des situations quand même qui sont très tristes, avec notamment des jeunes personnes qui décèdent. Et pour moi, c'est un peu un sanctuaire. Voilà, j'ai terminé une journée, je peux avoir vécu des choses très très lourdes et la course à pied m'aide en fait à me c'est un peu comme un refuge et en même temps ça me donne envie de profiter de la vie. C'est comme en fait un peu un hommage à la vie de courir et ça me permet de me sentir vraiment vivante et ça apporte énormément aussi dans cet aspect de mon métier plus particulièrement.
Je rebondis là sur ton métier, est-ce que c'est possible de complètement évacuer la dimension émotionnelle? J'imagine que le but du jeu c'est là de s'en prémunir autant que possible pour se préserver. Est-ce que c'est faisable en toutes circonstances ou est-ce que tu es nécessairement impacté par la situation auxquelles tu es confronté?
J'essaie de mettre de la distance, j'y arrive bien. Après, c'est vrai que des fois, on rentre chez soi et c'est vraiment très lourd et c'est pour ça que ça m'aide de courir. Mais voilà, et je me mets aussi un peu dans une bulle, c'est une mission en fait, mais c'est pas toujours facile.
Tu vas courir à quel moment? Est-ce que c'est justement fin de journée pour décompresser de la journée passée ou est-ce que c'est pour te lever du bon pied le matin?
Les deux. Oui, je fais un peu les deux et le week-end en pleine journée, mais j'aime bien, en fait, je suis peut-être plus performante, plus efficace le matin, et j'aime bien commencer ma journée comme ça, mais selon la journée que j'ai passée, j'aime bien aussi, je préfère y aller le soir, ça dépend.
Merci beaucoup pour cette introduction. Géraldine, on va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions à te poser, donc à toi d'y répondre comme tu veux, indifféremment dans la sphère perso, privée, sportive, professionnelle, enfin voilà, comme tu l'entends. Première de ces trois questions, le talent que tu aimerais le plus avoir?
Le revers de Federer. Non, si je devais refaire ma vie, j'aurais bien voulu focuser un peu sur le tennis. Enfin, je joue très rarement et c'est vrai qu'en soi, j'aimerais vraiment j'aurais peut-être bien voulu avoir une carrière de tennis, de joueuse de tennis professionnelle et d'avoir du talent là-dedans, chose que j'ai pas forcément.
T'as pratiqué beaucoup. Tu disais que tu l'avais pratiqué quand t'étais jeune, mais jamais en compétition ou à des niveaux qui permettaient d'entrevoir des espoirs.
Effectivement, c'était vraiment tellement rarement qu'il n'y a jamais eu possibilité d'entrevoir quoi que ce soit.
Et donc, t'avais un coup droit meilleur que ton revers, visiblement.
Oui, vraiment.
Deuxième question pour toi, Géraldine, le moment qui a changé ta vie pour toujours?
Alors, le décès de mon père m'a donné l'idée de me lancer dans le funéraire, ce qui a été un tournant professionnel et entrepreneurial qui m'a justement apporté le mental et la discipline qu'il me faut dans ma pratique de course à pied et vice-versa.
Et comment tu expliques ça, si on peut élaborer peut-être là-dessus? Tu ne trouvais pas justement des choses dont tu aurais besoin, toi, à ce moment-là, dans la gestion du décès de ton papa et tu voulais apporter ça?
Oui, mais en fait, ça m'a donné une idée d'un service finalement un petit peu différent et d'apporter quelque chose qui m'a justement manqué. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans.
Ça fait combien de temps là que tu as ta société?
8 ans.
Dernière question pour toi. Ta plus grande aspiration en ce qui concerne ta vie personnelle, à quoi tu rêves ?
C'est d'être libre. Voilà, je suis quelqu'un de très indépendante. Je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas. J'ai choisi aussi la voie entrepreneuriale. Alors, il n'y a pas du tout toutes les libertés qu'on peut imaginer. Hein, et je pense que tu connais bien le sujet. mais voilà, il y a quand même aussi forcément une indépendance professionnelle. Et je crois que c'est vraiment une vie que j'ai choisie et à laquelle j'aspire.
C'est un combat difficile ?
C'est pas simple tous les jours. C'est pas simple tous les jours de... Bon, voilà, à nouveau, comme je disais, il n'y a pas forcément de cadre et il faut en fait finalement faire son chemin soi-même.
T'as jamais pensé à t'associer ?
Alors, on est deux maintenant, mais j'ai commencé seule. Donc, effectivement, pas simple.
Merci beaucoup, Géraldine. Je présentais désormais ta course épique, donc la CCC. Je vais en planter brièvement le décor. La CCC compte 100 km et 6156 mètres de D+, et parcourt trois pays, l'Italie, la Suisse et la France. Le départ est donné depuis Courmayeur en Italie. Les premiers kilomètres conduisent rapidement, à plus de 2500 mètres d'altitude, jusqu'à un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et aux Grandes Jorasses. Le passage au Grand Col Ferret marque l'entrée de la course en Suisse, où les coureurs goûteront à l'accueil réputé des bénévoles de la Foulie, de Champais et de Trient. Déjà en France, mais si proche de la Suisse, les coureurs peuvent profiter un instant de l'authenticité et du charme de Valorcine, avant de découvrir au terme d'une dernière et impitoyable montée, tu vas nous en parler, le vallon des Chaiseries, avec sa vue somptueuse sur le massif du Mont Blanc. Il est alors enfin le temps de rejoindre l'arche d'arrivée en plein cœur de Chamonix. Les premiers concurrents, on en a parlé tout à l'heure, notamment de John Albom, arriveront un peu plus de 10 heures, tandis que 26h30 d'efforts attendent les derniers finishers de la course. Sur l'édition 2023, qui nous intéresse aujourd'hui et dont le départ a été donné le 1er septembre dernier, 2227 coureurs s'étaient donné rendez-vous à tes côtés sur la ligne de départ sous une météo très clémente. Et seuls 1650 d'entre eux sont venus au terme de la course, soit un taux d'abandon de 26%. Donc les trois quarts sont arrivés à bon port. Géraldine, tu connais le podcast, tu sais qu'après la description de la course, c'est le moment de la question qui pique.
Oui.
Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur la CCC ? Est-ce que j'ai oublié des choses qui te paraissent importantes ?
Oh, je crois que c'était très détaillé.
Ok. La question qui pique, c'est le moment. Alors, je suis un peu à court d'acronymes sur la CCC, c'est une course que j'ai déjà traitée un certain nombre de fois, mais j'ai quand même trouvé le Club des Croqueurs de Chocolat. Voilà, c'est une association qui existe, donc j'ai pris un petit raccourci sur la Suisse, le chocolat, voilà, ça m'a paru potentiellement adapté à notre échange aujourd'hui, donc on va traiter de ce sujet. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la particularité du chocolat qui fait qu'ils font parfaitement dans la bouche ? En tout cas, plutôt bien dans la bouche.
Oh mon Dieu !
Alors, facile, j'avoue.
La question du tennis était plus facile. Hein.
Elle était beaucoup plus facile, ouais, j'avoue que c'est impossible. Mais c'est intéressant, moi je vais te livrer la réponse, je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu veux tenter quelque chose ou pas ?
Je pense que c'est le cacao qu'ils font, enfin...
En fait, c'est en quelque sorte ça, effectivement, parce que le chocolat, c'est le seul aliment qui fond à environ 34 degrés. Voilà, juste en dessous de la température corporelle humaine, ce qui explique pourquoi ils font si bien dans la bouche.
Ah,
intéressant.
Intéressant.
Hein. Donc, ouais,
j'aime pas le chocolat.
C'est vrai ?
Non.
T'as le droit de rester en Suisse ?
C'est pour ça que, oui. c'est pour ça que j'ai pas su répondre à la question. Je plaisante.
Et donc, il y a des nuances selon le type de chocolat, tu vois. Entre le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat au lait, le point de fusion n'est pas exactement le même. Voilà.
D'accord.
Ouais, tu le sauras la prochaine fois que tu ne mangeras pas de chocolat. Que,
voilà.
Et la possibilité de fondre différemment, quelle que soit la couleur. Bon, c'était un peu chaud cacao comme question qui pique. Je m'excuse d'avance. On va passer, d'avance d'ailleurs, à retardement. On va passer désormais à ta course épique, la CCC, une course que tu n'es pas prête à t'effacer de tes tablettes pour le coup. Comment est-ce qu'elle est née cette idée de prendre le départ de la CCC ? Est-ce que c'était la suite logique des choses pour toi ? On a compris que tu étais dans une logique de progressivité ou est-ce que c'est finalement une espèce de petit accident de parcours et c'était pas tout à fait anticipé dans ta trajectoire de course ?
Alors, en fait, je dirais que effectivement, j'ai toujours fait les choses de manière graduelle et en quelques années, je suis passée du 5 kg à faire un marathon. En soi, je pense que quand j'ai commencé à courir, jamais j'aurais imaginé faire l'UTMB ou quoi que ce soit de la CCC. En fait, pour moi, la CCC, c'était une étape avant l'UTMB. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette quête de l'UTMB derrière tout ça, mais qui n'est pas venue tout de suite du tout. La première fois que j'en avais entendu parler, c'était, je crois, quand Caroline Chavreau, qui était ma prof d'histoire au lycée.
Je ne connaissais pas cette carrière, ok.
Mm-hmm. Oui, c'était... En fait, elle, pendant toute sa carrière professionnelle, elle avait un emploi à côté. Et Caroline Chavreau, elle avait gagné en 2016. Et quand je l'avais vue gagner, je n'oublierai jamais. En fait, en même temps, cette année-là, il y avait une collègue qui avait fait secouriste à l'UTMB. Puis on a commencé à parler de tout ça. Et moi, pour moi, c'était vraiment... En fait, une course réservée aux élites et aux fous. Et avec le temps, je pense que c'est toujours réservé aux fous. Mais je me dis aussi que c'est plutôt aussi des coureurs, enfin, il y a clairement des coureurs lambda qui sont capables de le faire et qui le font. Et je m'étais un peu dit avec le temps que oui, un jour, je le ferais. Par contre, je m'étais plutôt dit que je le ferais avant mes 45 ans. Je voulais me laisser le temps, vu que j'avais toujours fait les choses de manière plutôt progressive. Et puis je me suis dit, voilà, comme ça, vu que j'avais déjà fait plusieurs 20, 30 kilos en trail, je me suis dit, bah, voilà, je ferai plusieurs 50, après je ferai plusieurs 100, et puis un jour, peut-être, je ferai les TMB. Voilà, sans vouloir faire non plus n'importe quel trail, comme le marathon, pour moi, c'était important de faire quelque chose un peu prestigieux, et je trouvais incroyable de me dire que j'allais faire peut-être un jour le tour du Mont Blanc. Et il y avait un peu cette quête. Et en 2022, j'ai, avec mon amie Stéphanie, on était bénévole à Trien. Et on s'était dit à ce moment-là, bah, l'année prochaine, 2023, on fera l'OCC. Et on est parti là-dessus. OK, j'ai fait plusieurs 30 kilomètres. Maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure et tout. Puis quelques jours après qu'on ait fait bénévole, elle me dit, écoute, en fait, j'ai regardé. Et moi, j'ai déjà l'index pour faire les 100, donc faire la CCC. Puis j'étais OK. Félicitations.
Tu vas venir. Tu me raconteras.
Et en fait, voilà, elle me dit, bah, écoute, débrouille-toi pour avoir aussi les points nécessaires. Les inscriptions, c'est en janvier. J'étais là, ah, OK. Puis moi, il m'en faut toujours très peu pour me motiver. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et genre, une ou deux semaines après, j'avais la Ville Schrubel, qui est une course by UTMB qui finit à Cran, en Valais. Et je m'étais inscrite, en fait, depuis des mois aux 20 kilos. Et là, je me dis, bah tiens, OK, je vais upgrader. Si je fais les 50 kilos, je peux prétendre à la CCC en 2023. Et en fait, voilà, je me suis dit, j'y vais. Je n'étais pas préparée. Hein. Du coup, j'étais plutôt préparée pour un 20 kilos. Et une semaine après, je prenais le départ. Je me suis dit, bon, bah, à la guerre comme à la guerre. En plus, je me suis pointée toute seule à cette course qui était à l'autre bout de la Suisse. Enfin, c'est assez rare que j'aille seule à une course. Et là, je me suis dit, bon, voilà, j'avais vraiment cette motivation d'avoir les points avec elle. Et je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie de rejoindre Steph dans cette aventure. Même si en soi, finalement, on ne respectait pas tout à fait mon truc de faire graduellement les choses, je me suis dit, allez.
Et tu as fini la course, tu as eu les
points. J'ai fini la course. Je me suis dit, voilà, ça s'est très bien passé, honnêtement. J'aurais pu vraiment continuer beaucoup plus, enfin, faire beaucoup plus de kilomètres. Alors, j'étais vraiment dernière, hein. mais je m'en foutais. Enfin, pour moi, j'avais terminé, j'avais les points et c'est tout ce qu'il me fallait. Puis, en fait, je me suis dit, à ce jour-là, je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire 100? Est-ce que je suis capable de faire le double de ce que j'ai fait aujourd'hui? Et en fait, ben, je me suis dit un peu que finalement, le mental s'adapte avec la distance qui est prévue. Et alors, bien sûr, il faut une préparation physique, mais je suis assez convaincue que finalement, même si j'ai peu d'expérience en grand trail, enfin, en ultra trail, etc., je suis quand même convaincue aussi que finalement, ça dépend toujours par... enfin, de l'objectif qu'on s'est donné. Si par exemple demain tu me dis tu fais 10 kilomètres, je vais faire 10, je vais pas en faire 20, même pas 11, parce qu'en fait c'est ce qui est prévu ce jour-là et ton cerveau il s'est complètement préparé à faire la distance qui a été prévue et je me suis dit bah oui, je pense que les 100 je peux les faire, je me suis dit ça, donc voilà.
Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa entre les courses que t'as un peu jalonné tout au long de ton chemin qui te menait à la CCC et puis les entraînements à proximité de Genève, comment est-ce que t'as structurer tout ça? Est-ce que tu as trouvé très intense et très différent des préparations que tu avais connues jusqu'à maintenant?
Finalement, c'était un entraînement quand même beaucoup plus intense. Mais j'ai commencé finalement ma prépa en janvier, juste après l'inscription à la CCC. J'ai commencé ma prépa en janvier 2023. Mais là, j'avais vraiment le focus Marathon de Paris, qui allait être mon troisième marathon. Je participais. Puis pour moi, il y avait une différence entre le plat et le dénivelé. Et il fallait plutôt faire justement... du plat pour cette préparation. Donc finalement, c'était plutôt quelque chose qui s'orientait sur l'endurance et puis sur, oui, de la distance, mais pas encore sur du dénivelé. Et au mois de mai, je me suis mise à faire justement des salèves qui étaient à côté de, voilà, de chez moi. Je bougeais pas encore, ben, surtout avec le travail, je peux pas partir non plus tous les week-ends. Donc je me suis inscrite à pas mal de courses. Je me suis dit, ben, ma préparation, ça va être participer à ces courses et aller un petit peu à droite, à gauche si possible. J'ai participé à la Maxi Race justement avec Steph, avec qui... s'inscrivait à la CCC, on a fait le relais le tour du lac d'Annecy, incroyable. On a aussi fait le marathon de Verbier, les 42 kilos, où il y avait un bon dénivelé. Donc voilà, il y a eu plusieurs courses comme ça auxquelles j'ai participé pour être prête et voilà. Mais j'étais pas non plus, enfin je remarquais en fait dans cette préparation que même si j'étais confiante pour faire ces 100 kilos, il y avait un peu ce côté où je progressais pas. Vraiment pas. Alors peut-être que je m'étais prise trop tard et je pense qu'avec du recul, j'aurais dû commencer à faire du dénivelé plus tôt que, vous voyez, même pendant la préparation du marathon de Paris.
Ça, tu mesurais comment, cette idée de non-progression? C'était sur des allures, sur un ressenti plus impalpable?
Alors en fait, j'ai fait le salève une dizaine de fois et à chaque fois, la montée, elle était exactement au même chrono. Donc je me suis dit, bah voilà, entre le premier et le dernier, il y a eu zéro, enfin zéro progrès au niveau du temps. Et puis toutes les courses auxquelles j'ai participé, alors à nouveau le classement m'intéresse peu, mais j'aimais bien juste voir où j'en étais à peu près. Et franchement, j'étais toujours vraiment très 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 à la fin du classement. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, je suis très très limite au niveau du temps. Et c'est vrai qu'à Verbier, quand je voyais l'allure que j'ai tenue, alors même si c'était un trail très technique, je me suis dit, waouh, ça va être un peu chaud quand même, cette CCC. Même si j'étais capable de faire ces 500 km, je me voyais bien les finir, mais je me suis dit, ouais, il y a quand même un délai imparti et j'étais pas tout à fait sûre de y arriver.
T'arrives à discipliner comme ça, là, sur des phases de prépa?
Oui, très. Ah ouais, je suivais pas vraiment un plan.
Une séance.
Non.
Tu gérais toi-même ta préparation?
Oui, je continuais mes entraînements avec mon coach. Collectif avec la petite équipe, mais c'était à nouveau plutôt sur de la course sur route. Et quand j'allais faire mon petit dénivelé, j'avais un peu trouvé des petits programmes à droite à gauche sur internet, mais je faisais un peu au ressenti. Puis pour moi, mes piliers, c'était vraiment de participer à ces courses avec Steph. Et puis on a aussi fait la reco du parcours, qui a été aussi un élément clé dans la préparation. 5 semaines avant la CCC, on s'est fait en une journée, enfin sur un jour, on a fait Courmayeur jusqu'à Trien, qui était 70 en France, kilomètres.
Qu'est-ce que tu as eu comme ressenti là, justement, à explorer ce parcours-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu as trouvé ça plus difficile que ce que tu imaginais ou ça t'a rassuré au contraire?
Ça m'a rassuré dans le sens où je me suis dit, puisque quand on l'a fait, on a mis 20 heures.
Dans les conditions de course, vous avez vraiment parcouru?
Non, on était quand même un peu en mode rando d'une certaine manière. Okay. On n'était pas non plus complètement focus course. On était complètement autonome, donc on faisait des longues pauses. Il fallait qu'on passe à l'épicerie, s'acheter à manger. Enfin, on n'était pas dans les vraies circonstances de course. On a eu des conditions effroyables. Il a plu tout le long. Il y avait des orages dans la forêt. C'était assez flippant. Mais ça m'a rassurée dans le sens où je me suis rendu compte que le parcours était assez roulant et je me suis dit qu'il y avait plein d'endroits où je pouvais un peu avancer. J'étais contente de découvrir le truc, mais j'étais quand même, et puis aussi assez encouragée du fait que finalement on avait réussi à faire ça en 20 heures et pour respecter la barrière horaire, il aurait fallu le faire en 18 ou 19 heures. Donc on n'était pas très, très loin pour se dire qu'on était en mode un peu rando. Par contre, ce qui m'a un peu découragée, c'était quand même me dire waouh, c'est un sacré paquet. Il y avait un côté un peu où j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, est-ce que j'ai d'ailleurs envie de refaire ce truc? Il y avait des parties que j'avais aucune envie de revoir. Trop tard.
C'était quoi ton objectif sur la course si on devait le réduire à vraiment une intention?
De terminer. C'était pas abandonner. Enfin, en tout cas, je savais que si la course ne devait pas être terminée, ce serait pas à cause de moi, ce serait plus à cause du fait que je serais pas arrivée dans les temps. Le délai accordé, mais je savais que j'allais pas abandonner de mon plein gré, sauf pépin physique, évidemment, ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais mon objectif ultime, c'était de le terminer dans les temps, ouais.
Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course? Qu'est-ce que t'espères d'elle?
De finalement voir ces paysages dans des bonnes conditions météo, parce que c'est vrai que j'avais pas vu ça à son meilleur jour, et puis c'était vraiment de profiter, en fait, de faire, en fait, c'était mon premier ultra et pour moi j'avais envie de voir ce que c'était que d'enchaîner un effort aussi long, voir ce que comment mon corps et mon mental allaient réagir, et puis il y avait aussi un peu ce côté de déconnexion avec la nature, mais chose que j'ai forcément, enfin que j'ai déjà vécu dans d'autres trails plus courts, mais qu'elle est forcément différente dans un trail aussi long.
Il y a cette idée de plaisir aussi qui est toujours sous-jacente dans ton approche, on en a peut-être pas parlé, mais c'est vrai que t'aimes aussi prendre le temps, profiter, faire des photos. Enfin, t'es pas une course contre la montre, donc vraiment de prendre chaque instant et t'amuser, quelle que soit la difficulté, quoi.
Exactement. Enfin, moi, les trails, à nouveau, c'est vraiment une approche de profiter pleinement des paysages, de prendre des photos, etc., de m'arrêter et faire un peu comme une rando en plus, on va dire. Et c'est vrai que c'est comme ça. C'est comme ça que je l'approchais, en tout cas.
Si on te croise là sur une course, t'es du genre pipelette sur les sentiers? T'entames facilement la discussion?
Oui, assez. C'est génial parce que sur cette CCC, j'ai parlé avec pas mal de personnes, des inconnus qui deviennent finalement un peu des amis dans quelques instants et j'aime bien parler. Après, il y a des petits moments, pas forcément des moments dans le dur, mais où j'ai besoin d'être un peu toute seule dans ma petite bulle et puis je préfère aussi être un peu plus silencieuse, mais j'ai tendance à parler, oui.
Ça y est, Géraldine, on est le vendredi 1er septembre 2023 à Courmayeur, c'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens là à l'approche imminente du départ? Il y a la première vague qui part à 9h, toi tu partiras dans la dernière, là ça devient très concret. Qu'est-ce que tu as à ce moment-là à l'esprit?
Ben, il y a un état d'excitation qui était extrême. Il y a eu une petite déception aussi parce que j'aurais voulu partir avec Steph. On voulait prendre le départ ensemble. Souvent dans les trails, même si on est attribué à une vague de départ, ils s'en foutent. Mais là, ils étaient assez
Non
stricts,
négociable.
non négociables. Et bon, il y avait déjà l'envie de vouloir, parce que Steph est beaucoup plus forte que moi, elle court très vite et on savait très bien qu'on n'allait pas faire plus qu'un kilomètre ensemble. Mais il y avait quand même cette idée de partir ensemble qui a été un peu décevante. Parce que c'était pas possible et il y avait bah, en fait finalement du coup je me retrouvais dans la dernière vague de départ et il y avait un peu cette appréhension d'être alors c'est que 15 minutes mais je me suis dit oui on n'est peut-être pas à ça près mais en même temps il y avait le côté ben plus je me retrouve derrière plus je risque d'être à des moments peut-être toute seule finalement moi j'ai besoin d'un peloton pour me motiver, j'ai besoin d'un peloton pour avancer et j'avais pas envie d'être dans cette situation. Mais bon, c'est pas grave, j'ai vite relativisé. Je me suis dit, voilà. Et j'étais vraiment dans un état d'excitation extrême. C'était vraiment palpable auprès de tout le monde. Et c'était enfin là, en fait. Tous ces mois de préparation, cette excitation, enfin, cette réjouissance d'arriver enfin sur cette ligne de départ, j'y étais.
Tu t'attendrais à ce qu'il y ait pas mal d'amis et de proches qui soient sur le long de ton parcours.
Oui. Il était prévu que sur, bon, pas avant Champais, donc j'allais à Champais, c'est quoi, 53 kilos, je crois. Donc j'allais devoir patienter quand même un petit moment avant de voir mes proches, mais ça aussi c'était une réjouissance forcément. Et donc voilà, je prends ce départ confiante, avec toujours ce doute, est-ce que ok je suis endurante, ok je suis bien préparée, mais il n'y a pas eu de progrès, est-ce que je vais finir dans ce délai de 26h30? Mais voilà, je suis partie un peu dans un état d'esprit où je mettais mon cerveau sur off, je voulais pas trop réfléchir et je me suis dit on va faire les choses par étapes. On va pas, non, je ne fais pas 100 km. Pour moi, c'était, je vais jusqu'au prochain point prochain point au ravitaillement, je fais un sommet. Après, l'étape d'après, c'est la descente et on pense jamais au reste. Et je me suis dit, pendant la course, je vais pas me dire, ah tiens, j'ai fait le quart, ah tiens, il me reste tant, non.
J'arrive pas à faire ça, franchement, toi, c'est bien. J'ai lu dans ton compte-rendu, effectivement, tu disais que tu raisonnais par étapes, parce que tu viens d'expliquer les étapes qui ont été réalisées, parce qu'il reste à faire. Enfin, c'est un truc sur lequel je dois travailler aussi. Je suis dans le calcul. Je calcule les pourcentages tout le temps de ce qui reste.
Mais ça peut aussi faire du bien.
Ouais, moi je sais que c'est. Parce qu'il reste tout le temps des trucs, il reste tout le temps des moitiés de moitié de quelque chose. Donc finalement, c'est forcément, je suis pas sûr que ça aide tellement. Mais j'y travaille. Comment se passent les premiers kilomètres de ta course là jusqu'à Burton au kilomètre 13? Donc tu étais dans la meilleure disposition et prête à profiter pleinement. C'est quoi les premiers signaux là sur cette première dizaine de kilomètres? C'est ton ressenti?
Je me sentais vraiment en pleine forme. C'était une montée très raide. Hein. Il y avait 1005, donc pour prendre les proportions, le quart du dénivelé en si peu de
En
kilomètres.
seulement 10%, ouais.
Et voilà. Et franchement, j'étais impressionnée. Enfin, c'est vrai que cette partie-là, je l'avais fait de nuit avec Steph quand on avait fait la rocou. Et là, je découvrais le paysage. Je me dis, ah bah tiens, maintenant je vois tout ce que j'avais pas vu malgré la différence jour-nuit. Je reconnaissais un peu toutes ces parties et c'était vraiment génial. Et ça avançait pas trop parce que justement. Ça bloquait beaucoup, vu qu'on était quand même assez nombreux dans chacune des trois vagues. Et c'est vrai qu'on était à l'arrêt un petit moment. Et là, je me suis dit, ah, j'espère que ça ne va pas trop nous ralentir non plus. Alors, ça permet de garder de l'énergie pour la suite. Mais il y avait aussi un peu ce côté où je me dis, bah, ça n'avance pas très vite.
Ce qui fait que tu arrives à Burton là au kilomètre 13 avec seulement 30 minutes d'avance sur la fermeture des barrières horaires, c'est déjà un sujet en soi. Là, ça devient déjà une question.
J'avoue que je savais que je serais toujours proche des barrières horaires. Je me suis pas dit que j'aurais, enfin, je me suis jamais dit que j'aurais énormément de
De
marge.
marge.
Je savais pas non plus à combien je pouvais prétendre. 30 minutes à ce moment-là m'inquiétait pas du tout. J'étais plutôt confiante. Je me suis dit, je suis un peu, je fonctionne souvent comme un diesel un peu. Enfin, je me dis, plus ça avance, plus je peux être rapide. Donc, je me suis dit, et puis après, je savais très bien qu'il y avait une partie roulante qui m'attendait et je me suis dit que j'allais un peu avancer à ce moment-là et ça m'inquiétait pas trop. Mais sur cette partie roulante, justement, j'étais quand même un peu sur la retenue. Enfin, j'ai avancé moins vite que ce que je pensais. Je pense que c'était complètement inconscient, mais je me suis dit, même si je pense par étapes, je savais que mon corps était trop conscient de tout ce qui m'attendait. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il vaut mieux garder de l'énergie pour la suite et pas tout donner non plus. Donc, j'ai pas tant rattrapé mon retard sur cette partie-là. Mais j'étais en pleine forme, je me sentais vraiment, vraiment bien. Et puis voilà, avec ces paysages, cette partie-là est comme la plus belle. Puis je recevais plein de messages de mes proches. En fait, j'avais tout sur ma montre, les notifications, je pouvais tout lire et ça m'aidait énormément aussi à profiter du moment, d'avoir tous ces encouragements.
Je fais un petit saut dans la course. Là, on arrive au cœur de la course. Pour le coup, c'est à Arnouva, au kilomètre 26. Là, t'es plutôt surprise par ce que tu découvres en arrivant là. Au ravitaillement, qui contraste un peu toi avec ta propre conviction qui est plutôt favorable à ce moment-là.
Oui, il y avait pas mal de personnes qui étaient... On aurait dit un peu une scène de crime. Il y avait pas mal de gens qui étaient atterrés. J'ai vu qu'il y en, je crois qu'il y avait environ de la 60 personnes qui avaient abandonné à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'a surprise, sans jugement, hein, mais qu'il y ait autant de personnes au kilomètre 26.
T'as une explication, t'as une idée? Est-ce que ça peut y avoir des chaleurs particulièrement fortes ou autres? Ou c'est juste des gens qui n'étaient pas suffisamment préparés à ce moment-là?
Alors, moi qui supporte très mal la chaleur, je trouvais qu'il faisait pas non plus trop chaud. Enfin, c'était en montagne, on est quand même sur des températures tout de suite un petit peu plus fraîches et j'ai pas trouvé qu'il faisait chaud. J'ai trouvé juste que c'était parfait. Après, l'UTMB est sévère un peu dans son, comment on dit, dans l'attribution de l'index. Enfin, non, pardon, plutôt dans le tirage au sort, il faut quand même justement un index, etc. Mais finalement, pour participer à un 100 kills, il faut avoir fait qu'une seule fois un 50 kills, ce qui était d'ailleurs mon cas. Et c'est vrai que finalement, si ces personnes-là ont par exemple fait qu'un 50 kills et puis qu'ils se sont pas bien préparés, moi, je comprends qu'on en arrive là, en fait, et qu'on puisse pas tenir. Donc, c'était surprenant, mais finalement, en réfléchissant, il faut pas non plus 1000 points pour arriver à faire ces courses.
Il y a ensuite un juge de peu important de la course qui est Grand Col Ferret, qui est situé à peu près au 30e kilomètre. Comment se passe ton ascension?
Là, je me rappelle que j'avais eu le souffle un peu court. Là, c'est un des points les plus hauts au niveau altitude. Et c'est vrai que j'ai un peu... Je me rappelle avoir un peu galéré. J'étais un petit peu... OK. J'avais été un petit peu malade aussi pendant la semaine. Et je sais pas, j'ai senti que je toussais un peu, que j'étais pas au top. Mais finalement... Ça s'est assez vite rétabli. Des fois, je sais, quand il y a des pensées un peu négatives comme ça, je me dis aussi, bon, voilà, t'as une vie d'entrepreneur qui est dure que ça, tu peux y aller, quoi. Donc, non, ça a été. Finalement, c'est passé assez vite.
Tu avances ensuite ta descente vers la folie. Ça arrive vite où tu constates que tes proches te témoignent tout leur soutien puisque tu consultes régulièrement leur message. Toi, tu continues à profiter en étant dans les meilleures dispositions possibles depuis le début de la course.
Oui, ça m'a fait énormément de bien de lire tout ça. C'était vraiment des encouragements qui étaient hyper boostants. Et c'était dingue parce qu'à ce moment-là, j'avais toujours aucun pépin physique. Enfin, mes jambes étaient en parfait état, j'étais en pleine forme. Je ne m'attendais pas à me sentir aussi bien en fait encore à ce moment-là. Et ce moment-là était aussi assez marquant parce que c'est là que le premier John est arrivé.
John Albon, oui.
Arrivé à Chamonix et moi, il me restait encore 60 km. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait
c'est pas le
une
même
telle
monde.
Différence de niveau.
Faut pas comparer ça.
Non, il faut pas comparer.
Et ça, dans la ravito, tu prends de manière générale le temps de te poser. Enfin, tu te stresses pas à te donner un timing un peu serré. Tu t'installes, tu prends ta soupe, tu prends ce qu'il faut, tu te ravitailles sereinement. Ou est-ce que tu essayes quand même d'être vigilante?
Je crois qu'à la folie, j'avais de nouveau un peu plus de marge que dans les précédents ravito. Là, je me rappelle que je m'étais assise et que j'avais pris un peu de temps justement à répondre aux messages, à écrire. Mais j'évitais de perdre trop de temps non plus parce que je me suis dit autant... Enfin, là où je peux gagner du temps, il faut mieux le prendre. Et au ravito, bah, ça en fait partie. Quand on regarde Mathieu Blanchard et tout ça, qui passe une minute au ravito, je me dis, bah, c'est peut-être assez stratégique après tout. Mais je prends par contre le temps quand même de manger, de me ravitailler et de me reposer un minimum.
Les 10 kilomètres, ça va être ton terrain de jeu, puisque les 10 kilomètres suivants, ils sont en faux plat, donc ce qui est un terrain qui était plutôt favorable. Tu dépasses ainsi la mi-course et les 50 kilomètres avant de partir à l'assaut de la montée qui te mène au ravito de Champais, qui va marquer le temps des retrouvailles chaleureuses. Là, pour le coup, tu as les tiens qui t'attendent.
Oui, il y a mon amie Zaline qui allait gérer mon assistance, et c'était donc le premier point avec assistance. Et il y avait aussi ma mère et son copain qui m'attendaient depuis des heures parce que, en fait, je crois que l'application n'était pas très précise et ils avaient plutôt estimé un temps. Je crois autour des 19h, finalement, je suis arrivée là-bas, je crois que c'était 23h, quelque chose comme ça. Donc voilà, les pauvres. Mais c'était vraiment, en fait, cette montée justement avant Champais, j'avais un souvenir aussi vraiment horrible. J'avais un souvenir que c'était hyper long et finalement ça passait très très vite. Et je pense que c'était le fait de ce qui m'a énormément aidé pendant cette course, c'était justement de savoir que j'avais des proches à certains points qui allaient m'attendre et puis ça motivait en fait à y arriver puis à aller rejoindre le plus vite possible.
Là, la barrière horaire, tu la maintiens à distance, toujours dans la même sphère.
Oui, il n'y avait pas... on était de nouveau... Enfin, quand je suis repartie, je crois que c'était genre 20-30 minutes avant la fermeture. Donc, on était de nouveau très serré. Mais j'avais... Voilà, j'étais pas du tout encore inquiète et j'étais pas encore fatiguée. Donc je me suis
dit, ça change pas ta gestion de course.
Non, tant que j'étais dans cette forme-là, je me disais à ce moment-là que je pouvais encore clairement y arriver. Et j'avais pas envie de repartir, en fait, à ce moment-là, parce que j'étais avec mes proches. Et je me suis dit, voilà, si j'étais pas aussi serrée, je pense que je serais restée plus longtemps avec eux.
Comment tu gères là, globalement, la nutrition sur la course? T'as pas de contrariété particulière?
Alors, je devais vraiment me forcer à manger. Normalement, pendant les trails, j'ai toujours faim tout le temps. J'ai toujours envie de manger. C'est toujours un plaisir de prendre une barre de céréales ou des tucs ou des trucs comme ça. Là, non. Alors, j'avais fait ce que je fais à chaque marathon. C'est-à-dire que pendant 3 jours avant, je prends des compléments alimentaires, enfin du malto et en fait une base de glucides pour justement avoir une réserve supplémentaire.
J'ai entendu McDo, mais t'as dit Malto, hein, c'est ça?
McDo, oui, pardon. Et en fait, bah, disons que ça prend pas mal de place. Et en général, quand je prends ça avant les marathons, j'ai jamais trop faim. Et là, ça s'est vraiment ressenti pendant le trail. C'est que chaque ravito, oui, je savais que, et puis même en dehors des ravitos, toutes les heures, il fallait que j'avais ma montre qui sonnait, qui me rappelait qu'il fallait que je prenne soit un gel, enfin une compote, soit une barre de céréales. Et ça passait, enfin, mais c'était pas non plus hyper confortable. Et à Champais, enfin après Champais justement, quand je suis repartie, je venais de manger. J'avais bu un Red Bull pour me réveiller un petit peu. Et puis en fait, c'était un peu coincé, quoi. C'était pas très très agréable.
Ça donne pas tant que ça les ailes, pas de boule.
Non, non. Et puis il y avait un peu ce côté où bah, c'était de nouveau une partie un peu faux plat roulant où j'aurais pu vraiment tracer. Et là, non, j'étais un peu sur la retenue parce que c'était assez désagréable. Mais sinon, enfin, disons que l'alimentation s'était plutôt bien passée. J'ai pas eu de problème de digestion, des problèmes intestinaux. Donc franchement, ça va.
Tu reprends ensuite ta route avec une ascension maîtrisée jusqu'à la Giette au kilomètre 65, puis te voilà en route. Alors, ravito de Trian, au kilomètre 72, qui est, je crois, ta distance maximale de l'époque. Comment est-ce que se passe ce passage?
Mais là, j'étais complètement en transe. C'était la nuit et parce que voilà, la nuit était tombée depuis un petit moment. Et d'ailleurs, ce lac de Champais, je sais pas, dans ma tête, j'allais le voir de jour et en fait, il faisait nuit. Et je disais, ah, mais je suis vraiment naïve d'avoir imaginé que j'allais le voir de jour. Mais c'était un moment avec toute cette montée justement de la diète. J'étais vraiment dans l'ambiance de nuit de l'ultra et complètement connectée à la nature et j'étais comme une pile en fait, j'arrivais pas à tenir en place. J'avais l'impression d'aller vite même si c'était pas le cas et je me sentais hyper puissante. Je me suis dit bah tiens, je pourrais faire l'UTMB l'année prochaine quoi. Je me suis dit, il y a rien qui peut m'arrêter, je vais jamais être fatiguée, j'ai une énergie débordante qui est inépuisable.
Et là, la course prend une autre tournure avec la montée des Tseps ensuite, qui est vers le kilomètre 75. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, bah en fait je suis arrivée avant ça à Trien. Il y avait mon cousin et sa copine et aussi Isa, mon assistante, qui m'attendaient. Et en fait à Trien c'est le passage en fait où j'avais fait bénévole déjà en 2022, mais aussi 2 jours avant avec Steph cette année-là. Et il y avait toute l'équipe de bénévoles qui m'attendait. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont demandé quelle musique je voulais qu'ils passent. Et j'ai dit Spice Girls. J'ai commencé à danser. J'étais encore comme une pile. Et là il y a eu le gros coup de barre une fois que je suis repartie. Il devait arriver. Je me suis dit, ah, c'est à cause du fait que j'ai dansé 2 minutes. Non, je crois pas. Je pense que c'est juste qu'il y avait eu 70 km dans les pattes. Et effectivement, j'avais jamais dépassé cette distance. Et là, c'est marrant parce que cette partie-là, cette montée des Tseps, je l'avais faite le lendemain de la Rocco, juste comme ça, jusqu'à Valorcine. Et elle m'avait paru hyper simple. Et là, c'était d'une raideur horrible. Et je me suis retrouvée, en fait, avec un coup de barre monumental. J'étais en fait devenue un zombie dans les montagnes, mais d'une seconde à l'autre. C'était, en fait, je voyais plus d'issue. Et là, je marche et je me retrouve en fait finalement un peu toute seule. Il y avait quelques coureurs qui continuaient, mais ils étaient plus lents que moi. Je commençais à dépasser les gens. Je disais, mais comment c'est possible? Là, j'étais dans un état où j'arrivais même plus à avancer. Mais en fait, il y avait personne devant moi qui était là pour me tirer et il y avait sinon mais tous les autres coureurs qui étaient complètement étalés sur des rochers. C'était une partie hyper impressionnante en fait. Il y avait vraiment on aurait dit en fait des naufragés du Titanic qui attendaient leur canot de sauvetage. J'oublierai jamais et en fait je me suis dit, mais comment sans un peloton, sans des personnes qui sont là pour me motiver, je vais continuer alors que j'arrivais vraiment plus à avancer en fait. Et ça a duré plus d'une heure. J'ai mis plus d'une heure pour faire 2 km, ce qui est quand même hallucinant. Et là, en fait, je me suis dit, bah, je regardais l'heure. À ce moment-là, Steph, elle était en train de finir sa course. Elle voulait le faire en moins de 20 heures et je savais qu'elle y était parce que je recevais aussi ses messages à elle. Et je me suis dit, waouh, enfin, j'étais vraiment impressionnée. J'étais en admiration totale, mais en même temps tellement découragée. Je me suis dit, ah, elle a fini et moi, il me reste. Je voulais pas penser à ce qui me restait, mais à ce moment-là, j'y ai un peu pensé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, voilà, j'essaie de d'avancer et tout. Et je regarde l'heure et là, je me suis dit, OK, tu vas jamais arriver à Valorcine dans les temps. Et j'ai juste fait un calcul. J'avais pas beaucoup, j'arrivais pas très bien à réfléchir, mais je me suis dit, non, c'est juste pas possible. Tu vas jamais y arriver. Puis j'hésitais à m'asseoir, à faire une sieste comme les autres, mais je me suis dit, j'ai pas non plus envie de perdre de temps. Je savais pas trop prendre des décisions, en fait. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais jamais y arriver. De toute façon, l'ultra trail, c'est nul. La marche était trop haute. T'aurais jamais dû t'inscrire à ce truc. Finalement, c'était trop de faire 100 km. J'étais pas assez bien préparée. Et puis, puis tant pis, je dois rien à personne. Enfin, j'ai fait le deuil de ma course, en fait, en quelques minutes. Je me suis dit, tant pis. Puis, en fait, je me réjouissais. Je me suis dit, bah, tiens, je vais pas m'asseoir. Je vais quand même aller jusqu'à Valorcine et comme ça, je serai plutôt au lit. Donc j'avais un peu cet objectif de quand même y aller sans jamais penser arriver dans les temps, mais je voulais quand même y aller pour dormir le plus vite possible, en fait.
C'était quoi les symptômes là, de ta fatigue?
C'est le corps qui suit plus. C'était vraiment le fait de plus réussir à avancer.
Pas de douleur, mais un manque d'énergie?
Non, aucune douleur. Ouais. Toujours pas de douleur, mais un manque d'énergie totale. Et en fait, être un zombie qui n'avance plus et puis qui... Ouais, c'était mon esprit voulait, mon corps voulait pas. Il y avait rien à faire. Et j'avais envie de dormir. C'était violent. Et j'avais un peu eu ça à la reco, mais à la reco, il y avait pas de barrière horaire qui me stressait derrière. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Je vais pas y arriver.
Qu'est-ce qui a fait que la situation, s'est pas tout à fait réalisée comme tu l'imaginais à ce moment-là?
Ben, finalement, je sais pas, je suis arrivée aussi au sommet. Je pense que ça a aidé, en fait, d'arrêter de monter. Et à un moment, je me suis rappelé d'un truc que j'avais entendu dans un podcast où on m'avait dit le regret définitif, la souffrance ou la fatigue est temporaire. Et je sais pas, d'un coup, c'est comme si finalement la fatigue est partie d'un coup.
Ça a du bon les podcasts, je te comprends.
Oui, exactement. C'est très utile. J'ai repris de la vitesse en fait et j'ai fait ma descente. C'est passé assez lentement, mais... Je me souviens que j'étais de nouveau comme neuve finalement. Et je suis arrivée à Valorcine. Je suis repartie de Valorcine après avoir vu Steph. Donc Steph avait fini sa course et sur son retour sur Trier, parce qu'elle a un chalet là-bas, elle s'est arrêtée avec son mari pour me saluer, me faire une surprise. Et elle m'a dit, je lui ai fait promettre que j'allais aussi moi le chercher. Et je suis repartie de Valorcine, j'ai même pas eu le temps de manger. Isa, elle m'a juste tendu un t-shirt qu'elle m'avait préparé. Et un t-shirt surprise comme ça, puis je l'ai mis et je suis repartie à 7h alors que ça fermait à 7h15. Donc là, j'avais jamais été aussi short. C'était vraiment, il y avait 15 minutes de marge et j'ai pas eu le temps de manger. Je suis repartie avec mon sandwich dans les mains. Enfin, une catastrophe, mais j'étais de nouveau complètement relancée et en pleine forme.
Et devant toi, donc 20 km et 5 heures pour arriver à les parcourir pour être dans les temps.
Oui, exactement.
Comment se passe ensuite, si on avance un peu dans le temps, ta dernière ascension de la course jusqu'à la Flégère au kilomètre 93?
Ben là, il y a de nouveau une énorme vague de fatigue qui est revenue. C'était cette fois encore plus violent, en fait. Je pense que là, c'est aussi, on sait que c'est la dernière montée. Alors, il y a un côté un peu, bon, voilà, on est vraiment très, très proche du but. Mais n'importe quelle dernière montée est affreuse, en fait. Et là, c'était même plus une fatigue d'avoir envie de dormir, c'était une fatigue d'avoir envie de mourir. J'avais envie de me flinguer, quoi, vraiment. Et c'était...
T'as une idée pourquoi ça a pris ces proportions-là?
Je sais pas, je pense qu'il y avait un épuisement général, mais là, c'était surtout, ça commençait à être mental, en fait. La fatigue que j'avais eu avant, elle était plutôt physique, enfin, c'était vraiment l'envie de dormir, mais là, c'était, j'en pouvais plus. J'étais vraiment en train de me demander, mais pourquoi je me suis inscrite à ce truc? Qu'est-ce que je fais là? Venez me chercher. Enfin, pour moi, il y avait à nouveau pas d'issue. Et je parlais avec un des autres coureurs, je lui disais, mais tu crois qu'on va y arriver pour 10h15 à la Flégère? Et il m'a dit, mais c'est pas à 10h15, c'est à 10h45 qu'il faut y être. Et là, j'étais, oh! Il y a une sorte de second souffle, un soulagement de savoir que finalement, il y avait encore un peu de temps pour y aller. Et j'ai de nouveau vu le bout, je sais pas comment dire, c'était... La fatigue, elle est de nouveau partie. En fait, c'est un peu, quand on est dans le creux de la vague, on peut que la remonter. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, bah en fait... Ça vient, ça part.
Et là, t'étais moins prête à recevoir le fait d'être hors délai pour le coup. Là, ça t'aurait vraiment posé un problème. Là où t'avais été plus philosophe, oui, un peu plus tôt à te dire que...
Oui, j'étais plus résiliente avant. Là, pour moi, c'était pas possible. En fait, on était vraiment trop proche du but pour accepter, en fait, de pas finir la course. Pour moi, c'était... Là, on était à 90 kilos, enfin, passé 90, et pour moi, c'était juste pas négociable. Je devais y arriver. Donc, on m'arrête à la Fégère, c'était quelque chose que je voulais même pas imaginer. Donc, non, il fallait que je termine cette montée, en fait, dans les temps.
Et donc là, tu arrives dans les temps, grâce à notamment ce petit extra time d'une demi-heure qui t'a été bien bénéfique. J'imagine que là, ton état d'esprit change radicalement, et quand même la physique, le physique est attaqué, la lassitude est là, mais j'imagine que là, tu commences à croire vraiment à ta capacité à finir.
Oui, je voyais le bout. Je voyais le bout et en fait, je suis arrivée à la Flégère à 10h21, donc 6 minutes après le temps que j'avais imaginé, mais finalement en 25 minutes avant la fermeture. Et j'avais tellement, pendant cette montée, imaginé le commissaire de course qui allait me dire « Non, vous arrivez trop tard, c'est pas possible. » Et quand je l'ai vu, j'étais « Ah, je suis dans les temps. » Et en fait, je me rappelle, il m'a vraiment... il m'attendait avec un grand sourire et il m'a dit... Enfin, il m'a demandé comment j'allais. Je lui dis « Ça va ?» Et il me fait « Tu vas y arriver ?» Et puis, en fait, j'ai cru que c'était une question. Et puis, il m'a dit « Non, non, mais tu vas y arriver. » C'était une affirmation. Et je sais pas, j'oublierai jamais, en fait, son visage, la manière dont il m'a dit ça. Et voilà. Et en fait, pour moi, là, j'avais fini ma course, en fait. Enfin, j'avais réussi. En fait, j'avais déjà regardé dans les précédentes CCC ou UTMB qu'une fois qu'on passe la Flégère, en général, il laisse passer tout le monde. Enfin, à moins qu'il y ait un gros pépin, mais... j'avais déjà vu des gens finir la CCC en plus de 26h30 parce que voilà,
ils étaient passés à temps à la Flégère. Ouais.
Voilà, exactement. Donc pour moi, en fait, ma course était un peu acquise à ce moment-là. Et il y a eu un soulagement, mais comme j'en ai rarement eu, en fait. Et là, je me suis dit, bon, on s'en fout, la descente, je l'ai faite, mais j'allais encore plus lentement que tout le reste de la course. Et là, je parlais avec une autre fille. Je commençais à finalement dire, OK, là, c'est bon. Et puis après un moment, en descendant, et là, je commençais à avoir un petit peu mal aux jambes. C'était le seul moment où j'étais vraiment très, très fière et très contente d'avoir finalement tenu physiquement au niveau vraiment musculaire jusque-là. Et ça commençait à tirer un petit peu. Donc, c'était aussi difficile pour moi d'aller plus vite physiquement. Mais je me suis rappelé que finalement, il y avait un délai de 26h30 et je voulais quand même respecter ce qui était officiellement accordé. Donc j'ai accéléré un peu le pas parce que je me dis, je perds déjà beaucoup de temps. J'aimerais arriver avant midi à Chamonix et j'ai accéléré. Puis là, c'était incroyable parce qu'il y avait tous les supporters de l'UTMB qui étaient en train de monter à la Flégère pour voir le premier arrivé de l'UTMB. Finalement, c'est fait pour qu'on se croise jamais avec les premiers finishers de l'UTMB, mais ils sont jamais très, très loin. Et vu que j'étais vraiment tout dernière, je me suis retrouvée avec ce public-là qui était en train de monter. Et puis, en fait, ils nous applaudissaient. Ils étaient tellement encourageants, tellement souriants. Et ça m'a donné un boost. Et j'oublierai jamais, en fait, cette descente. C'était...
Ils étaient venus pour toi, hein, tu sais. Ils n'étaient pas venus pour Jim Wamsley.
Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais non, c'était un souvenir incroyable. Et finalement, j'arrive en bas, mais c'était une descente interminable. Je pensais pas, cette partie-là, je l'avais jamais faite, j'avais vraiment aucun repère. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit aussi long. Et là, je me suis dit, oups, je vais jamais y arriver, il faut que j'accélère, etc. Il faut que je sois à Chamonix avant midi. Et j'arrive enfin en bas, et là, je sprint, je me fais j'ai jamais couru aussi vite de toute cette CCC. Et là, je vois une femme qui me dit, une bénévole qui me fait, c'est bon, il te reste 10 minutes pour faire 600 mètres. J'étais là, yes, j'y suis arrivée. Et là, je tombe sur Isa qui m'attendait avec sa GoPro pour filmer mon arrivée. Et je crois que j'oublierai jamais, en fait, elle était impatiente, je crois qu'elle était très inquiète. Elle avait même essayé de m'appeler pour savoir où j'en étais, si j'allais arriver dans les temps. Et là, elle m'a vue, elle m'a dit « Dépêche-toi !» Et moi, je lui ai crié « Mais j'y suis arrivée !» J'y suis arrivée. Enfin, c'était vraiment un moment hyper fort. Et après, j'ai traversé Chamonix. Et c'est vraiment un moment que j'avais vu sur les réseaux sociaux 10 000 fois, tous ces athlètes, ces élites qui arrivaient à l'UTMB. Et là, c'était moi. c'était moi qui étais. Et j'arrivais pas à y croire. J'étais mon Dieu, mais j'y suis arrivée. Et j'ai traversé Chamonix dans une ambiance incroyable avec à nouveau énormément de monde qui attendait Jim, quoi. Et je vois ce tapis bleu et j'étais mais mon Dieu. Je crois que c'était une image hyper marquante et j'ai passé l'arche et je me suis un peu effondrée comme ça et en fait d'une certaine manière je crois que j'y croyais pas. Enfin pour moi c'était un peu un rêve auquel il fallait pas me réveiller.
Tu boucles donc 600 km et 6156 mètres de déplus en 26h24 minutes et 21 secondes donc tu es à moins de 6 minutes de la barrière horaire officielle donc tu as parfaitement géré finalement tout ça.
C'était limite. Hein.
C'était limite, mais c'était finement ciselé. On l'a dit, c'est John Albon qui l'emportait en 10h14 et Yngwie Kaspersen chez les femmes en 11h51. beaucoup d'émotions à l'arrivée, tu vas nous le dire. Qu'est-ce qui explique selon toi que tu as réussi à mener à bien cette SSC? Comment tu pourrais argumenter sur le fait que ça s'est bien passé finalement, ce saut sur un format qui était complètement inconnu pour toi?
Mais moi, je dirais quand même qu'il y avait une bonne préparation physique, mais pour moi, ce qui a vraiment fait la différence, c'était mes proches, ceux qui étaient présents, notamment évidemment Isa et son assistance, mais aussi ceux qui n'étaient pas présents. Ces messages-là, honnêtement, en fait, sans tout ça, alors peut-être que j'ai perdu aussi moi-même du temps à donner des nouvelles, mais je pense que leurs encouragements m'ont vraiment porté jusqu'au bout. Et finalement, j'ai appris à travers cet ultra que finalement, le trail, c'est un sport individuel, certes. Enfin, surtout dans la préparation, on n'est pas toujours entouré. OK, il y a des moments pendant la course où on est un peu seul. Je me suis quand même sentie très seule à certains moments, même s'il y avait jamais... Enfin, il y avait toujours un peu des coureurs autour de moi. Mais finalement, c'était un vrai... Ouais, c'était un sport d'équipe. Et en fait, je crois que ça a été un élément clé pour finir cette course.
Qu'est-ce que tu changerais de ta CCC? Est-ce que tu changerais quelque chose?
Non, je changerais rien du tout. En fait, je pense que justement, ça a été... particulièrement savoureux de réussir dans ces conditions-là, en fait. Je pense que... Alors, peut-être que j'aurais moins rigolé si on m'avait arrêté à la Flégère. c'est même sûr et certain que pour moi, ça aurait été impossible de ne pas terminer cette course et j'aurais été hyper frustrée. Mais là, de l'avoir réussi de cette manière-là, je pense que ça a rendu l'accomplissement encore plus savoureux. Et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière.
A posteriori, là, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur la course?
Ces nuits, je pense que c'était... C'était vraiment... Ouais. En fait, c'était des vagues de fatigue et je pense que c'est à considérer pour les prochaines fois de me dire qu'en fait, c'est passager. Mais à ce moment-là, on a du mal à voir le bout. On n'a pas l'impression qu'on peut s'en sortir, mais en fait, apparemment, oui. Alors peut-être qu'une troisième vague de fatigue... Ouais. peut-être que dans la troisième, j'aurais pas forcément réussi à en sortir, mais ça m'a quand même montré que oui. Mais c'est ce que j'ai retenu qui était le plus difficile, oui.
Cette course, elle t'a pris quoi sur toi? Qu'est-ce que t'en tires là aujourd'hui comme enseignement, comme bénéfice?
Je dirais, je suis quelqu'un d'assez persévérant et ça l'a montré d'une autre manière, mais je dirais que ça m'a appris, c'est qu'en fait, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, comme dans la vie. Et en fait, des fois, on a l'impression, dans ma vie d'entrepreneur aussi, j'aime bien faire des liens entre les deux, mais il y a toujours des solutions. Et puis finalement, l'important, c'est même pas que le résultat, mais c'est le chemin aussi, le chemin parcouru pour y arriver.
Une image que tu retiens de ta CCC? Il y en avait qu'une.
La ligne d'arrivée.
Un moment précis?
Je pense que quand j'ai vu le tapis bleu, c'était... Ouais, c'est là que c'est magistral, en fait. Il y a un contour, un petit virage, et on arrive sur cette fameuse place du Triangle de l'Amitié. Et je pense que ce tapis bleu qu'on voit justement tellement dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, ça m'a... Ouais, je crois que c'est ce moment-là qui m'a le plus marqué. Après, il y en a eu plein d'autres, évidemment.
Si tu avais trois conseils à donner à quelqu'un qui prendra le départ de la CCC l'année prochaine, qu'est-ce que tu lui dirais?
De s'accrocher, de ne pas abandonner et puis d'y croire jusqu'au bout, parce que même si ça paraît impossible, même si en soi, on pense qu'on va pas arriver au bout, que ce soit au niveau du timing ou même pas forcément, ben finalement, on peut toujours en ressortir et le terminer.
Géraldine, on va parler d'avenir. Merci de nous avoir partagé avec autant de cœur ta CCC. Plutôt de la chance au tirage au sort, on va dire, après la CCC, où tu as été tiré au sort pour la première fois. Il y a un beau projet qui se dessine pour toi, tu l'as dit, entre les lignes là pour 2024. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ton grand rendez-vous phare? J'imagine que c'est celui-là, en tout cas, sur ta saison 2024 à venir.
Oui, c'est l'UTMB. c'est aussi quelque chose qui m'a, je pense, aussi accroché pendant cette course, c'est que je me disais, mais en fait, si tu la finis pas, cette CCC, tu n'auras pas l'index pour l'UTMB, tu ne pourras pas t'inscrire, en fait, et je pense que c'était un élément aussi qui m'a permis de tenir et qui m'a vraiment motivée. Et voilà, je vais participer à l'UTMB cette année et avec grande réjouissance, forcément aussi un peu d'appréhension en étant un peu sceptique justement, en train de me dire est-ce que j'étais aussi proche du barrière horaire, est-ce que ce sera de nouveau le cas? Je suis pas tout à fait sûre de vouloir retenter un tel suspense sur une course aussi longue. Donc, l'idée, là, c'est de progresser un peu en vitesse pour déjà aussi prendre le temps de dormir. Je me vois pas forcément alignée deux nuits blanches. Une, là, c'était assez compliqué. et en faire une deuxième, je suis pas sûre d'y arriver.
Donc là, tu as changé des choses dans ton approche. Là, t'as structuré un peu différemment, au-delà du volume qui est pas le même, t'as structuré différemment ta préparation.
Alors oui, en fait, je me suis de nouveau inscrite à un marathon en avril, celui de Londres. Là, cette fois-ci, je me suis dit, non, on va pas faire que du plat. On va commencer le dénivelé un peu plus tôt. Et j'ai aussi pris les choses en main. Je me suis pris un coach privé pour faire un programme qui va me suivre et tout. Et on a commencé début janvier, donc je fais déjà du dénivelé. J'aimerais qu'il me donne des astuces pour progresser en vitesse. J'ai aussi une blessure cet hiver qui m'a obligée à aller voir un ostéo et qui m'a dit, en fait, tu sais quoi, ton problème de blessure, ça peut être aussi une... J'ai pas été blessée pendant la CCC, mais vraiment après, il m'a dit, mais ça peut être réglé en étant un peu plus souple et accessoirement, peut-être qu'en étant plus souple, tu iras plus vite en trail parce qu'en fait, je fais des tout petits pas, donc ça m'aiderait à faire des pas un peu plus grands. Donc ça aussi, j'espère que ça donnera quelque chose, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de cette deuxième expérience en ultra.
Une belle perspective. Géraldine, c'est la dernière question de ce podcast. C'est le moment du motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nos auditeurs, une phrase particulièrement symbolique et forte pour toi?
Alors oui, pour moi, c'est enfin, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose que je me dis souvent. Et en fait, il n'y a aucune raison qu'une personne arrive à faire plus de choses qu'une autre personne. Je pense que si on veut vraiment quelque chose, si on croit vraiment en quelque chose, on peut y arriver. Alors, ça demande du mental et de la discipline, justement, mais pour moi, c'est... Voilà. Et je pense que ça peut aider dans la vie, mais aussi dans une... Voilà, dans la vie sportive, dans tous les domaines, finalement. J'ai vraiment... Enfin, c'est vraiment quelque chose que je me dis tout le temps et j'y crois vraiment. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire.
Une belle note positive pour conclure ce podcast. Merci beaucoup, Géraldine. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ta première expérience sur Ultra avec CCC. Qui a été une belle illustration de ta pugnacité, ta détermination, on l'a bien senti, qui n'a jamais oublié pour autant ton aspiration et ta capacité à t'enthousiasmer, à prendre du plaisir aussi sur cette chance de pouvoir vivre ce type de course. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et notamment lors de ce grand rendez-vous à l'UTMB à la fin du mois d'août. Je ne serai pas loin, donc je suivrai avec un œil très attentif évidemment pour le résultat et puis je t'enverrai plein de bonnes ondes pour que tu rejoignes la place du triangle de l'amitié.
Merci Guillaume.
À bientôt.
Merci pour tout. À bientôt.
À la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continue. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.